France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. On ne joue pas avec une épidémie. Voilà comment Jean Castex défend les mesures prises à Marseille contre le Covid-19. Sur France 2 hier soir, le Premier ministre a promis d'exonérer les professionnels, les restaurateurs surtout, des charges sociales le temps des fermetures. Les cafés, les restaurants, je vous le rappelle, devront fermer la nuit prochaine dans la métropole d'Aix-Marseille. Idem en Guadeloupe pour au moins 2 semaines. Tout cela sauf décision contraire en justice, car notez que Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, va déposer un recours devant le tribunal administratif. Les craintes des élus et la réponse de Jean Castex, ce sera dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. Plus généralement, la situation est grave dans toutes les grandes métropoles. Le chef du gouvernement souhaite que les piscines couvertes ferment, comme les salles de sport et les gymnases. Cela concerne Paris, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Nice. Enfin, notez que pour Roland-Garros, c'est acté, le nombre de spectateurs en tribune est limité à 1000. Le tournoi de tennis du Grand Chelem commence ce dimanche. Pour ce qui est des chiffres donnés par Santé publique France, plus de 16 000 personnes ont été testées positives en 24 heures au Covid-19. L'agence sanitaire précise que le taux de positivité augmente légèrement, c'est-à-dire le nombre de personnes positives sur l'ensemble de celles qui font un test. Les admissions en réanimation à l'hôpital augmentent également de plus en plus rapidement. Autre annonce faite par le Premier ministre hier, une hausse du budget pour la justice de 8% l'année prochaine. Une partie de cette enveloppe va financer des juges pénaux de proximité pour traiter les petits délits. L'un des accusés au procès des attentats de janvier 2015 est finalement négatif au nouveau coronavirus. Michael Pastor Alouatic a passé un test hier après un malaise dans le box, vomissement, fièvre, maux de tête. L'audience a été suspendue hier, mais selon le président de la Cour d'assises spéciale à Paris, elle doit reprendre ce matin. Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous allons reprendre le cours de nos programmes. Bruno David est attendu dans quelques instants pour Le Monde Vivant. Bruno David qui nous parle ce matin de la salamandre.
François Mitterrand est élu président.
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80, projet Orlov sur France Culture.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien. Projet Orlov, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, en son immersif. Le feuilleton à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous avez un quart d'heure pour que je vous parle d'actu ? Bonjour, je suis Céline Asselot et chaque jour on a rendez-vous pour le quart d'heure. Un nouveau podcast dans lequel je vous raconte ce qui a marqué la journée, ce qui m'a emballé, questionné, et vous aussi, sans doute. J'irai chercher les réponses à nos questions avec mes invités,
le quart d'heure,
et les journalistes de Radio France.
L'info autrement, un podcast à retrouver du lundi au vendredi dès 17h30 sur l'appli Radio France.
Il est 6h03, ça y est, on l'a retrouvé, Bruno David, pour Le Monde Vivant. C'est donc la salamandre au menu du Monde Vivant ce matin.
Imaginez-vous en 1726, une carrière proche du lac de Constance, le squelette d'un enfant. Non, aucun crime odieux n'a été commis. Le médecin et naturaliste suisse Johann Schoechzer découvre un fossile étrange qui évoque un enfant. Le fossile est brisé, de sorte que les jambes sont invisibles. Convaincu d'avoir mis à jour une connexion entre un fossile et la Bible, il baptise cet homme de petite taille Homo Diluvi Testis, ce qui signifie « homme témoin du déluge ». Replaçons Schoechzer dans son contexte du XVIIIe siècle. Les naturalistes d'alors ne s'étonnent guère de trouver des fossiles de poissons et autres animaux aquatiques dans les montagnes. Le déluge étant supposé avoir submergé la terre entière, toute victime laissée ainsi pétrifiée, même en haut des montagnes, apparaît comme un témoin abandonné par les eaux diluviennes lors de leur retrait. Quoi qu'il en soit, le fossile est acheté par un musée hollandais en 1802. En 1810, la Hollande devient française, et en 1811, l'anatomiste Georges Cuvier, inspecteur des établissements publics d'enseignement supérieur pour l'Empire, inspecte. Cuvier examine le fossile et y reconnaît immédiatement une salamandre géante inconnue. Elle sera scrutée et décrite par des naturalistes suisses, juste au retour des choses, sous le nom de Salamandra, puis bientôt d'Andreas Schoechzeri, dont le nom de genre signifie « image de l'homme ». En 1836, le zoologiste néerlandais Conrad Jacob Temminck découvre la salamandre géante du Japon, qui devient très vite Andreas japonicus. En effet, dans les eaux japonaises, les spécimens mesurent jusqu'à 2 mètres et atteignent 35 kilos. La salamandre géante du Japon n'est pas très belle. De couleur sombre et terne, ses yeux sont minuscules et sa peau est grumeleuse. Sa réputation ne vient donc pas de sa beauté, mais de sa chair délicate, de sa grande gueule et de sa longévité. En captivité, cette longévité est attestée à 80 ans, mais les rumeurs lui en accordent 150. Quant à sa grande gueule, il se raconte qu'au XVIIe siècle, un guerrier, Ikoshiro, fut avalé tout rond par Anzaki, une salamandre géante de 10 mètres de long. Ikoshiro parvient alors à s'extirper de l'estomac du monstre en le lacérant de son sabre avant de le hacher menu. Le fait est que la gueule démesurée de l'animal peut se distendre et engouffrer la tête d'un congénère, c'est-à-dire une tête aussi grosse que la sienne. Car l'espèce est cannibale, et tout individu doit défendre ses œufs contre les attaques des autres. En Chine vit Andreas Davidianus, proche cousine de la japonaise. Tout ce petit monde se ressemble donc beaucoup. Il est même impossible de distinguer le fossile qui date du Miocène supérieur, c'est-à-dire de 13 millions d'années, de l'actuelle salamandre géante de Chine, dont un spécimen âgé de plus de 200 ans a été trouvé en 2015. De quoi alimenter pas mal de mythes. Cette histoire de salamandre géante fossile est digne d'un roman. D'ailleurs, elle en a inspiré un, celui du tchèque Karel Čapek, écrit en 1936 et intitulé « La guerre des salamandres ». Pas fréquent qu'un fossile soit l'acteur d'un roman.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Aujourd'hui en compagnie de Noël Mamère, ancien maire de Bègue, ancien député, toujours militant écologiste, et de Raphaël Macaron, jeune dessinatrice libanaise. Bonjour Noël Mamère, bonjour Raphaël Macaron.
Bonjour.
Tous les deux, vous avez sillonné la France pour aller à la rencontre de celles et de ceux qui ont fait le pas de changer radicalement de mode de vie pour se rapprocher de la nature. 5 exemples concrets d'une vie alternative, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Pontivy, où des anciens étudiants de grandes écoles se sont rassemblés en communauté pour créer un réseau d'initiatives écologiques et solidaires. Alors, vous les appelez les éclaireurs du monde d'après, Noël Mamère. Vous les appelez les éclaireurs du monde d'après, bien sûr, parce qu'on a connu quand même l'épisode Covid. Alors c'est un reportage, un road trip raconté dans une bande dessinée qui a pour titre Les Terrestres. Ça vient de sortir en librairie aux éditions du Faubourg.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
C'est une nouvelle maison d'édition d'ailleurs. Et c'est la première bande dessinée de cette maison d'édition, les éditions du Faubourg, Les Terrestres, de Noël Mamère et de Raphaël Macaron. Alors, qui a eu l'idée de cette bande dessinée, de vous faire travailler ensemble, Noël Mamère, Raphaël Macaron, c'est l'éditeur, c'est quel...
C'est l'éditrice.
C'est
elle s'appelle Sophie Kaya, et elle a décidé, dans sa nouvelle maison d'édition, de créer une collection de bandes dessinées du réel. Quelques-unes seront peut-être de fiction. Et elle a été assez ébranlée par la question de l'effondrement. Et donc elle est venue me voir, sachant que j'étais informé de ces sujets et que mon métier, mon seul métier, c'est le journalisme. Elle m'a dit voilà, j'aimerais que vous fassiez une série de reportages dans des lieux alternatifs qui ont été construits autour de cette idée. Mais je lui ai dit j'ai jamais fait de bande dessinée. Mais elle m'a dit pas de problème, on va trouver une dessinatrice. Et donc moi, j'ai accepté cette idée qui était tout à fait nouvelle pour moi, qui était une aventure d'une certaine manière. Et elle a trouvé une jeune dessinatrice qui s'appelle Raphaël Macaron, qui est en face de moi. Et Raphaël Le premier contact, elle le raconte d'ailleurs très bien dans notre bande dessinée Les Terrestres, aux toutes premières pages. Mmh. Le contact s'est établi entre le vieil écolo que je suis et cette jeune femme qui n'était pas directement concernée par les problèmes de l'écologie, et plus par les questions qui agitent son pays, le Liban. Et donc nous sommes partis tous les deux en immersion dans ces lieux. Et j'ai vu, au fur et à mesure que nous avancions, j'ai vu Raphaël prendre conscience de cette urgence écologique. Le but était qu'elle prenne conscience de cette urgence, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque maintenant, on peut dire que Raphaël est une militante, en tout cas qu'elle ne regarde plus le monde et son entourage tout à fait de la même manière.
Raphaël Macaron, ravi de vous retrouver d'ailleurs.
Moi aussi.
Voilà, ça fait 5 ans que vous habitez Paris. Ça n'empêche pas que vous êtes très très connecté à votre pays d'origine, le Liban.
Oui.
Où il est vraiment question aussi du Liban dans cette bande dessinée. Alors il y a un bandeau vert qui dit « Noël, ma mère en reportage chez les éclaireurs du monde d'après ». C'est pas tout à fait juste parce que ce n'est pas une ce que fait par exemple la revue dessinée, c'est-à-dire un reportage avec un sujet et le dessinateur est là juste pour rendre compte de ce reportage. Là, Raphaël Macaron raconte son implication, elle raconte ses doutes,
C'est ça l'intérêt.
Bah oui, et c'est très bien. Et puis alors, c'est pour ça que c'est une très bonne idée, parce que il y a bien sûr la parité homme-femme, il y a aussi ce dialogue intergénérationnel, mais surtout le fait que vous soyez libanaise, Raphaël Macaron, vous mettez un peu de nuance dans nos inquiétudes climatiques, parce que elle rappelle que ses parents, sa famille, son pays ont connu la guerre, c'est-à-dire l'effondrement.
Oui, c'est vrai que je n'aurais, enfin, comme Noël raconte la rencontre qui a été faite entre nous et la façon avec laquelle ils m'ont approché pour faire ce projet, c'est vrai que j'aurais été moins tentée de le faire si ce n'était pas avec justement cette carte blanche un peu totale de pouvoir vraiment raconter mon ressenti, mes émotions pendant ce voyage, parce que je découvrais vraiment le sujet. Je découvrais tous ces gens et je découvrais aussi Noël, que je ne connaissais pas particulièrement avant qu'on me le présente. Donc c'est vrai que c'était très important pour moi de pouvoir raconter l'histoire avec de mon point de vue, avec ma perception. Et c'était plein de rencontres qui étaient très belles.
Mais ce qui est très intéressant dans le récit que nous avons fait l'un et l'autre, c'est par exemple quand Raphaël parle de la guerre. C'est vrai que nous avons des expressions dans notre langage écolo. Il faut déclarer la guerre au climat, enfin au réchauffement climatique. Dans l'esprit de Raphaël, la guerre, c'est pas exactement la même chose que ce que nous racontons. Donc elle relativise cette expression.
Absolument.
Elle dit, mais attendez, vous savez ce que c'est la guerre ? Moi, je sais ce que c'est parce que mes parents l'ont connu. Et moi, je suis né après la guerre et je vis dans un pays qui subit les conséquences dramatiques de cette guerre. Et je trouve que ce point de vue apporté d'un autre monde... Ça nous enrichit aussi d'une certaine manière. Ce sont deux regards croisés qui, de temps en temps, se télescopent. Et je trouve que c'est aussi l'intérêt qui crée le dynamisme du récit.
Alors, ce road trip a été fait l'année dernière. Hein. C'était juste avant la pandémie du Covid.
Oui, c'était pendant l'année 2019, entre avril et juin.
Après, il y a eu donc le confinement, ce qui vous permet d'écrire Noël, ma mère, en préambule de cette bande dessinée, Les Terrestres, que les rêveurs d'hier sont devenus les éclaireurs de ce monde d'après qui tarde tant à venir.
Oui, il tarde beaucoup à venir. On a beaucoup disserté sur le monde d'après. Après, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de papiers écrits par des philosophes, des sociologues, des anthropologues et des Français de la société civile. Moi, je suis assez dubitatif sur la question du monde d'après, parce que je pense que c'est une manière d'exorciser celui que nous vivons aujourd'hui. On est quand même pas mal dans le déni de ce qui nous arrive. Nous sommes entrés dans ce que le GIEC appelle la décennie critique. Et nous savons aujourd'hui que ces 10 ans vont être déterminants pour l'avenir, pour notre propre avenir et celui de nos enfants. Et je crains malheureusement, vu le rapport de force asymétrique entre ceux qui veulent protéger notre destin commun et ceux qui ont choisi de poursuivre dans ce rêve prométhéen, je crains que le jour d'après ressemble furieusement au jour d'avant en pire. Mais j'ai plus de raisons d'espérer que de désespérer, parce qu'il y a la génération de Raphaël, et même les plus jeunes, qui sont aujourd'hui en train de prendre conscience de cette urgence.
Et vous les mettez, et vous les mettez en valeur dans ce voyage, dans ce récit en bande dessinée. Mais vous jouez avec deux perceptions différentes de ce qu'on est en train de vivre.
Et
Raphaël Macaron.
Et c'est vrai que Noël, il aime bien dire que je n'étais pas du tout sensibilisée aux questions écologiques avant de le rencontrer. Mais je l'étais, mais c'est vrai que pas dans ces termes-là, en tout cas. Il y avait pas, je n'avais jamais entendu le mot collapsologie, par exemple. Je n'avais pas pris conscience d'un effondrement qui arrive comme un espèce d'événement total, malgré l'éducation écologique que j'ai eue. Et d'ailleurs, la bande dessinée commence avec une scène au Liban, où je suis avec ma mère qui ramasse du plastique sur la plage. C'est vrai que lui présenter les choses comme ça à quelqu'un qui se considérait comme étant quelqu'un de très écologique, ils m'ont pris pour une folle. Ils me disaient, mais l'effondrement, la fin du monde, l'apocalypse, ça, c'est un fantasme, ça n'existe pas, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et quelque part, c'est vrai, je trouve qu'il y a une nuance à trouver entre les deux discours. Un discours très catastrophé et un discours plus nuancé, plus.
Oui, mais Raphaël est en train d'expliquer ce à quoi je me suis attaché pendant toute la durée de ce reportage.
Qui a duré combien de temps?
Qui a duré 2-3 mois.
2-3 mois.
Un peu plus,
oui,
peut-être.
Un peu plus, même.
Bon, bref.
Avec très Raphaël peu de n'arrête pas de me dire. Raphaël n'arrête pas de me dire. Oui, mais ça va être la fin du monde, comment ça va se passer, et je vais pas faire d'enfants, et c'est l'apocalypse qui va te tomber dessus. Et je passais mon temps à lui expliquer que il ne faut pas réfléchir en termes de la fin du monde, parce que ça c'est une forme de millénarisme qu'on a déjà connu dans d'autres époques, mais de la fin d'un monde, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et aujourd'hui, il faut trouver des issues de secours, c'est ça l'idée. Et donc je pense que ça, elle l'a bien compris, que ses parents l'ont bien compris, comme la question des enfants. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le comprends très bien, Raphaël et sa génération qui a 30 ans, elle hésite à faire des enfants parce qu'ils se disent dans quel monde je vais les faire naître. Je suis pas du tout de cette génération d'écologistes néo-malthusiens qui disent qu'il ne faut pas faire d'enfants, parce que je pense que la question de la surpopulation, c'est un leurre qui a été lancé par les conservateurs dès les années 68 avec Paul Ehrlich, et que quand on parle de surpopulation comme principale menace sur la planète, c'est s'exonérer de remettre en cause le système dans lequel nous sommes. Et quand nous faisons des enfants, nous nous investissons beaucoup plus pour les protéger. Mais vous imaginez un monde sans enfants? C'est un monde qui meurt.
Raphaël Macaron, est-ce que cette expérience, ce voyage, ce reportage, et même cette bande dessinée, Les Terrestres, ont changé quelque chose dans votre perception de la vie?
Oui, c'est sûr. C'est sûr, d'une certaine manière. Justement, je parlais tout à l'heure de la nuance. Je pense que je perçois les choses avec plus de nuance. En tout cas, au début du projet, j'avais une vision plus totale de l'effondrement comme un événement qui va venir, qui va nous tomber sur la tête. Et c'est ça qui m'affolait beaucoup. C'est pour ça que j'étais très angoissée au début. Et c'est quelque chose que j'essaye de montrer dans le livre. Ce qui a changé maintenant, c'est sûrement de la nuance. Mais aussi, c'est difficile pour moi de ne pas voir l'effondrement avec le prisme de l'actualité, de ce qui se passe au Liban notamment.
Vous faites le parallèle avec le Liban, c'est-à-dire le chaos, la guerre, mais peut-être une occasion de rebâtir un autre monde, un autre Liban ou un autre monde.
Oui, absolument, et ça fait écho justement avec la révolution du Liban qui a commencé en octobre 2019 et qui continue jusqu'à maintenant. Mais bon, les catastrophes se succèdent un peu au Liban, et donc c'est un peu difficile d'avoir d'espoir là tout de suite. Mais en essayant de regarder le paysage de manière plus éloignée, c'est vrai que c'est une opportunité de reconstruire un autre monde, de reconstruire une nouvelle façon de vivre.
Noël Memer.
Je ne suis pas un écolo intégriste, donc il y a des choses que je mange que les écolos veulent pas manger. Bref, mais j'essaie de faire attention. Oui, je roule la bicyclette depuis très longtemps dans Paris. Je respecte un certain nombre de gestes, mais je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser chacun. La lutte contre le réchauffement climatique, contre les pollutions, contre ce modèle de société, c'est aussi le rôle des gouvernements, c'est aussi le rôle des États. Et donc il faut arrêter de culpabiliser les citoyens, et ces citoyens qui doivent se mobiliser pour que les États fassent le nécessaire afin que nos enfants puissent vivre dans des conditions décentes. Et Raphaël a eu un très bon contact avec tous ceux que nous avons rencontrés, de Notre-Dame-des-Landes à Langouette, en passant par la ferme légère et en passant par la bascule. parce que c'était à peu près sa génération. Et on voyait que le contact y passait bien. Et elle, comme moi, nous avons beaucoup appris de ces garçons et de ces filles, de ces hommes et de ces femmes qui ont fait des choix radicaux et courageux. Et qui essaient, en effet, de pratiquer, d'exercer une liberté que finalement nous n'avons pas dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est beaucoup plus contrainte. Et on s'est aperçu, et ils le disent d'ailleurs de manière très claire, que la liberté, ça a un prix. Le prix du compromis, le prix de la compréhension de l'autre, le prix de la tolérance, le prix de l'échange des savoirs. Et tout ça, c'est quand même... ça pose des pistes pour ce monde que l'on voudrait plus à hauteur d'homme.
Est-ce à dire avec cette bande dessinée, Noël ma mère, que vous avez décidé d'abandonner le terrain politique pour continuer votre combat en dehors des structures politiques?
La politique, elle n'est pas forcément... elle ne siège pas uniquement dans l'élection. Donc j'ai été effectivement maire pendant 28 ans, député pendant 20 ans, mais... Le combat politique.
Pour vous, ça c'est fini ?
Oh oui, puisque j'ai laissé ma place de maire en 2017, que je n'ai pas été candidat en 2020, ce sont des choix, personne ne m'a jeté, bien au contraire. Mais je pense que la politique au sens noble du terme, elle se fait tous les jours. Et quand on fait avec Raphaël ce reportage, cette série de reportages que nous avons appelé Les Terrestres en référence à ce que dit le philosophe Bruno Latour avec son livre Où atterrir, c'est montrer qu'on peut habiter la Terre autrement. Avec une relation différente entre les êtres humains et une relation différente des êtres humains aux autres qu'humains, c'est-à-dire à l'ensemble du monde vivant. Est-ce que c'est de la politique, de la pédagogie? C'est sans doute un peu des deux. كل النسوان والرجال جايين لابسين الجلود انتظار اللي بيموت وبيعود نسمع حكمة الأعناب كل الحكم بالأعناب رحنا جرحا
Culture, le réveil culturel, Tufik Hakem.
Avec ce matin, Raphaël Macaron et Noël Mamère pour leur bande dessinée Les Terrestres. On va beaucoup parler de Liban ce week-end sur France Culture et à l'Institut du Monde Arabe à Paris, près de deux mois après la tragédie qui a frappé Beyrouth, les explosions dans le port. L'Institut donc du Monde Arabe et France Culture ont décidé d'organiser tout un week-end pour essayer de voir à quoi va ressembler le Liban de demain. Que pensent les Libanais de ce qui s'est passé ces dernières années? Raphaël Macaron, vous qui êtes libanaise, s'il fallait vous donner plutôt la parole pour nous raconter, de votre point de vue, ce qui s'est passé ces dernières années au Liban.
L'actualité au Liban m'a beaucoup suivi justement dans ce livre. J'ai beaucoup suivi l'actualité au Liban pendant ce livre. Ça résonnait beaucoup avec les sujets qu'on abordait. J'ai fait la dernière planche de ce livre, c'était mi-juillet ou début juillet. Et je voulais justement que ça se termine avec une note d'espoir sur cette scène de la révolution, parce que pour moi ça symbolisait justement l'espoir, et évidemment j'aurais pas pu imaginer que quelque chose d'aussi dramatique allait se produire, même pas deux semaines plus tard.
Mais maintenant que vous êtes à Paris, maintenant que vous avez des amis français, quand ils vous demandent à vous, Libanaise, qu'est-ce qui se passe au Liban, qu'est-ce que vous répondez, Raphaël Macaron?
Aujourd'hui, à l'heure où on est en train de dire ça, c'est vraiment un cauchemar ce qui se passe au Liban. C'est le résultat d'un gouvernement complètement incompétent et qui préfère littéralement voir le peuple s'engouffrer dans une misère au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, plutôt que de renoncer à leurs privilèges, à leur pouvoir. C'est aberrant d'assister à ça, et c'est très difficile de vivre ça à distance, parce que moi j'ai encore toute ma famille qui est là-bas, j'ai mes amis qui sont là-bas, donc c'est vraiment difficile ce qui se passe au Liban en ce moment. En tout cas, il y a un sentiment de désespoir très fort, très puissant, et qui, j'espère, va mener à un vrai changement sur le long terme.
Noël, ma mère ?
Moi,
ce pays que vous avez connu quand vous étiez jeune, c'est ce que, oui, ce qu'on apprend en lisant la bande dessinée Les Terrestres.
Oui, j'y suis passé il y a très longtemps, en 1966. Ce n'était pas exactement le Liban d'aujourd'hui. C'était le Liban qui était encore ce qu'on appelait la Suisse du Levant.
Alors, sans vous poser la question qu'on va se poser ce week-end sur France Culture, oui, comment penser l'avenir du Liban ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre ?
C'est très difficile de penser l'avenir du Liban si on continue à faire confiance à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc il faudrait un véritable changement que le peuple exige. Est-ce que ce peuple sera entendu ? Mais quand je vois par exemple que le président de la République française, c'est vrai que la France a un lien particulier avec le Liban, cautionne d'une certaine manière ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir pour assurer le changement, je crois que ce n'est pas ce que les Libanais attendent. Ce pays a fonctionné d'une telle manière dans, ouais, la répartition des confessions que aujourd'hui il faut remettre tout ça en cause, avec en plus des factions qui aujourd'hui tiennent le pouvoir. Avec le Liban, c'est aussi un pays qui est au milieu d'une poudrière entre la Syrie, Israël, les Émirats Arabes Unis. Souvenez-vous d'Hariri qui a été pris en otage pratiquement par l'Arabie Saoudite. Bah, vous vous dites que c'est une grande complexité, d'autant que le Liban est un pays qui, en plus, c'est un petit pays de 6,5 millions d'habitants, je crois, à peu près. Il y a près de 2 millions de réfugiés au Liban. Comment voulez-vous qu'ils puissent gérer tout ça, alors que nous pleurons quand nous avons 150 000 réfugiés dans notre pays ?
Donc aujourd'hui, le temps du débat sur France Culture à 18h20 avec Emmanuel Laurentin, consacré bien sûr au Liban, qui parle au nom du Liban avec Daniel Arbid et Joumana Haddad. Demain, pour la matinale de Caroline Brouet, c'est Amin Malouf et Rassan Salamé qui seront les invités du 7-9. L'Esprit Public aussi demain. Une masterclass avec Wajdi Mouawad. Un jukebox consacré au Liban en guerre et ses musiques. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là où on est, à partir de là où vous êtes, Raphaël Macaron, c'est-à-dire à Paris, pour le Liban?
Mon identité en tant que Libanaise est vraiment un sujet pour moi. Ça fait partie de mon travail de manière générale, et dans ce livre particulièrement. Mais ça ne me met pas pour autant dans une position de porte-parole pour la jeunesse libanaise, parce que déjà, c'est pas le cas. Et puis en plus, ce serait prétentieux d'avoir cette posture-là. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai essayé d'être le plus sincère possible par rapport à ça. J'ai essayé de vraiment parler de mes émotions en tant qu'émigrée. Et idéalement, si tout le monde pouvait mettre son savoir-faire au service de la cause, entre guillemets, pour aider le Liban, ça serait super.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Couleur vive, couleur joyeuse, pour parler de sujets très très graves. C'est complètement réussi. Les Terrestres, la bande dessinée par Raphaël Macaron à partir de ce reportage en compagnie de Noël, ma mère. C'est édité aux éditions du Faubourg. Première bande dessinée de cette nouvelle maison d'édition. Merci Noël, ma mère, d'être venue.
Merci beaucoup.
Merci Raphaël Macaron d'être là.
Merci beaucoup.
On vous entendra peut-être ce week-end. On se croisera sans doute soit à l'Institut du Monde Arabe, soit ici dans les studios de Radio France. Un week-end spécial Liban. Donc, commence ce soir à partir de 18h. Bonne matinée sur France Culture.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Dans une tribune publiée cet été dans Harper's Magazine, 150 penseurs et artistes, dont Margaret Atwood, J.K. Rowling, Salman Rushdie et Kamel Daoud, dénonçaient la cancel culture, culture de l'annulation, terme désignant la mise à l'index de personnes dont les opinions sont jugées offensantes. Parmi les signataires, Thomas Chatterton Williams, journaliste américain vivant à Paris. Signe des temps, la cancel culture, de la bien-pensance à la censure, par Marc Betzman, avec Thomas Chatterton Williams, ce dimanche à 12h45 sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente Sing Me a Song, un film de Thomas Balmès. Le jeune moine Peyanki vit dans un monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du bonheur, l'arrivée récente d'Internet bouscule les rituels quotidiens. Peyanki se passionne pour les chansons d'amour et tombe amoureux sur les réseaux sociaux d'une jeune chanteuse. Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville? Sing Me a Song, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Face à la fronde à Marseille contre les restrictions sanitaires, Jean Castex assume. Le Premier ministre était hier soir sur France 2, évoquant une course contre la montre et des mesures fortes que seul le gouvernement pouvait prendre. Les réticences et la réponse du gouvernement dans ce journal. Pendant ce temps, le confinement se durcit encore un peu plus en Israël, ce qui polarise la colère contre Benjamin Netanyahou. Nous irons dans la région dans quelques instants. Et puis, nous nous intéresserons à la fabrication de la viande végétale. Un marché en plein développement dont l'entrepreneur Xavier Niel a décidé de profiter. Il investit dans une nouvelle société, les nouveaux fermiers. Tollé des éleveurs dans cette édition. Mais nous partons donc d'abord en Israël où le reconfinement sera durci tout à l'heure à la mi-journée. Le gouvernement de coalition de Benjamin Netanyahou décide de fermer les synagogues, sauf lundi pour Kippour. Tous les salariés devront faire du télétravail, excepté dans les secteurs dits essentiels. Les rassemblements extérieurs sont limités à 20 personnes, personnes qui ne pourront d'ailleurs aller pas au-delà d'un kilomètre de leur domicile. Cette dernière mesure est très critiquée car elle revient à interdire les manifestations anti-Netanyahou qui mobilise des dizaines de milliers de personnes depuis le début du mois de juillet. Hier après-midi, 2000 personnes anti-Netanyahou se sont donc rassemblées face à des pro-Bibi devant sa résidence à Jérusalem. C'est un reportage de Frédéric Pétezo.
La police dispose des barrières pour séparer les pros et les anti-Netanyahou qui s'injurient. Mikhaïl, qui sentait le durcissement arriver, a tout prévu.
J'habite Tel Aviv, j'ai loué un petit appart tout près d'ici pour être à moins d'un kilomètre. En Israël, depuis 10 ans, une seule personne, Benjamin Netanyahou, divise les communautés. Ça me brise le cœur de voir des gens sans éducation penser qu'il est leur roi.
De l'autre côté, parmi les partisans de Netanyahou sous une tente, se trouve Razi.
Je suis là car il y a un coup d'état du système judiciaire qui est devenu gauchiste. Je pense qu'il faut arrêter les manifestations car les manifestants contaminent et augmentent les infections dans tout Israël.
Mayana habite juste à côté, elle travaille dans un service de pneumologie, elle connaît le virus mais elle a des doutes sur les mesures.
Reconfinement, c'est un nouveau mot pour moi. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, c'est très embêtant. Moi, je ne comprends rien dans les politiques de tout, mais le gouvernement, pourquoi maintenant ils ont peur? Mais je respecte aussi le choix de le gouvernement.
Lundi, ce sera Yom Kippour, le jour du grand pardon, dans un pays divisé comme jamais.
Et d'ailleurs, hier soir, le ministre israélien des Sciences et Techniques a démissionné du gouvernement pour dénoncer, dit-il, ce reconfinement dans le pays. Le carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil, reporté sine die, l'édition 2021 devait se tenir en février prochain. Ce ne sera pas le cas à cause de l'épidémie de Covid-19 au Brésil. Le SARS-CoV-2 toujours actif en France également. Dans les zones en alerte renforcée, en plus des salles de sport et des gymnases, les piscines couvertes devront fermer. Le Premier ministre l'a annoncé hier soir. Cela s'ajoute aux restrictions prévues dès demain dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe. À Marseille, un appel à un rassemblement ce matin devant le tribunal de commerce a d'ailleurs été lancé pour dire non à ce reconfinement de l'économie. Ce sont, je vous le rappelle, les bars et les restaurants qui devront fermer. Antoine Marette a joint à ce propos le secrétaire général de l'Association des maires de France, Philippe Laurent, qui conteste la méthode du gouvernement.
Les mesures qui ont été annoncées n'ont pas été du tout discutées, concertées avec les représentants des élus. Si ça avait été le cas, il y aurait eu au moins un accompagnement, une explication qui peut se faire très rapidement, et notamment auprès des professionnels, par les maires des communes concernées. C'est extrêmement désagréable d'être maire et d'entendre que sur sa commune, il va se passer ça par décision de l'État, alors même que finalement, désemparés, professionnels, ou voire même les habitants, finalement, s'adressent toujours au maire. Et le maire apprend en même temps que ses habitants les mesures qu'ils ont prises. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement dommageable et qui nuit à l'efficacité des mesures. La preuve en est, c'est qu'elles sont contestées.
En quelque sorte, vous critiquez le jacobinisme du gouvernement.
Il peut y avoir une forme de jacobinisme éclairé. Nous sommes tout à fait conscients du fait qu'il faut qu'il y ait des lignes claires qui soient données au niveau national. Il y a un cadre général et ensuite c'est localement qu'il faut définir l'ampleur des mesures qui sont prises. Par exemple, les heures de fermeture, des équipements qui peuvent continuer à fonctionner. Et ça, ça ne peut se faire qu'en concertation.
Pas de concertation. Invité de France 2 hier soir, Jean Castex a tenu à répondre aux élus marseillais, notamment mobilisés contre la fermeture dès demain des bars et des restaurants. Ces mesures sont indispensables, selon le Premier ministre.
Si nous n'agissons pas, et nous allons agir, si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. J'entends les réactions des Marseillais, mais je me suis expliqué. J'ai téléphoné ce matin au président de région, j'ai téléphoné ce matin à madame la maire de Marseille pour leur expliquer quelle est notre position. Elle n'était pas contente, mais je lui ai expliqué le sens de la décision de l'État. Quand il y a des mesures ainsi importantes, impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État responsable de la sécurité sanitaire en dernier ressort qui les assume. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de travailler avec eux, mais je pense qu'il aurait été, et vous voyez d'ailleurs leur réaction, très difficile pour eux d'assumer ces mesures nécessaires.
Jean Castex qui annonce donc une exonération de charges sociales pour les restaurateurs. Le Premier ministre a aussi été hésitant sur certains sujets. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h avec l'analyse de Stéphane Robert. C'est un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros et le nouvel Eldorado pour de nombreuses nouvelles entreprises. La viande végétale se développe un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, 14% des ménages en consommeraient régulièrement. Et la crise du coronavirus pourrait doper les ventes de cette viande végétale. Les Américains sont sur le point d'investir en France. C'est pour prendre les devants qu'une entreprise se lance. Elle s'appelle Les Nouveaux Fermiers, en partenariat avec un industriel de l'agroalimentaire, Anne-Laure Chouin.
À coût d'investissement coûteux et de brevets jalousement gardés, plusieurs startups sont désormais en mesure de proposer des aiguillettes de maïs, des nuggets de petits pois ou des steaks de blé qui y ressemblent à s'y méprendre à de la viande. Les Nouveaux Fermiers, financés par le fonds d'investissement de Xavier Niel, Kima Venture et la Banque publique d'investissement, seront donc les premiers fabricants de ce type de produits à échelle industrielle sur le territoire français. Une nouvelle qui fait grincer des dents le monde de l'élevage, notamment à cause du nom qui associe l'image du fermier à une production très transformée. Alexandre Armel, éleveur de bovins dans l'Allier, est responsable de la section viande de la coordination rurale.
On utilise aujourd'hui le terme fermier, le terme de steak, de saucisse, de nuggets. Donc ces termes-là, normalement, doivent être attribués à des produits carnés. Ce ne sont pas des fermiers. Le terme fermier, il me semble, il y a une loi qui l'encadre. En creusant un peu, je pense que M. Niel sera obligé à terme de changer ce terme.
Les fondateurs de cette usine dont le site est tenu secret promettent à terme 100% de céréales françaises pour leurs matières premières. Et c'est l'autre critique faite par les éleveurs pour s'approvisionner en protéines végétales et sortir des produits compétitifs. Les nuggets Nouveaux Fermiers coûtent pour l'instant 3 fois le prix de nuggets de poulet. Il faudra soit importer, soit cultiver de façon intensive, ce qui n'est pas sans causer de dégâts sur les populations animales, dans les champs et les prairies. Plusieurs études menées sur des exploitations de céréales américaines et australiennes ont démontré qu'entre les semis, les pesticides et la moisson, ce sont parfois plus de 75% de ces animaux, rongeurs et oiseaux, qui sont tués par les cultivateurs.
Et j'ajoute la réaction de la FNSEA ces derniers jours. Le syndicat d'agriculteurs s'est ému de la présence du fonds d'investissement de Xavier Niel dans cette entreprise appelée Les Nouveaux Fermiers. Du jamais vu selon les agents immobiliers. Depuis cet été, les Anglais sont 2 fois plus nombreux à venir s'installer dans le centre et l'ouest de la France. L'approche du Brexit au 1er janvier 2021 leur rend l'avenir très incertain et ils traversent donc la Manche malgré le Covid-19. Écoutez ce reportage de Thibault Lefebvre.
Sarah et son mari sont partis du sud-ouest de l'Angleterre il y a un peu plus de 3 mois. Ce couple, tout juste sexagénaire, envisageait depuis un moment d'acheter une maison de maître à rénover au sud de Châteauroux, mais pas avant la retraite. Avec l'imminence du Brexit, ils ont accéléré leur projet.
On a peur que après décembre 31, tout va changer pour les Anglais. On ne sait pas si on doit trouver les visas, des permis de travail. Et pour cette raison, on décide en juin. OK, voilà le moment d'aller.
C'est donc le statut de résident en France qui a motivé le choix de Sarah et de son mari. Et ils ne sont pas seuls, selon Trevor Leggett. Il dirige un groupe de 800 agences immobilières spécialisées dans le marché français, à destination notamment des Britanniques.
On a vu plus de 50% de vente en plus. Parce qu'aujourd'hui, les Britanniques peuvent rester 192 jours dans l'année sans devenir résident. Cette période, ils pensent, va être raccourcie de 182 jours à 90 jours avec un visa classique. Du coup, ils vont dire qu'on va devenir résident. Comme ça, il peut retourner en Angleterre comme il veut.
Et depuis cet été, les territoires les plus attractifs selon l'agent immobilier sont les Deux-Sèvres, suivis de la Dordogne et des Charentes.
Thibault Lefèvre, la météo du jour, c'est assez simple. De la pluie pour tout le monde. 7 à 19 degrés ce matin. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées sur France Culture avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
En guise d'hommage à Juliette Gréco, Jacques, ouais. L'icône de Saint-Germain-des-Prés, vous emboîtez le pas au piéton de Paris, Léon-Paul Fargue.
Je parle, je marche, je me souviens, c'est tout un. Les éditions du Cendre publient l'intégrale de ses chroniques parisiennes dans une édition savamment critique due à Barbara Pascarel sous le titre « L'esprit de Paris » et c'est sa parole torrentielle qui ressurgit dans le décor des rues et l'horizon de façade. Saint-Germain-des-Prés, justement, y figure comme le site de 3 grands cafés en vertu desquels la place vit, respire, palpite et dort. Avec ses terrasses qui gazouillent comme un four à frites, les deux magots, le café de Flore et la brasserie Lip. Nous sommes en 1936, Juliette Gréco a 9 ans, mais déjà, ce coin de Paris est le foyer chaud de la littérature et des idées. C'est chez Lip que Léon-Paul Fargue a pris ses quartiers. À coup sûr, un des endroits, le seul peut-être où l'on puisse avoir pour un demi, le résumé fidèle et complet d'une journée politique et culturelle française. On comprend mieux, écrit-il, on comprend mieux ainsi qu'à 2h30 du matin, le personnel est beau éteindre les lumières de cette agence, de cette cour des comptes de l'événement parisien. Il faille pousser les poubelles dans les jambes des clients pour les mettre dehors. Là ou ailleurs, l'apéro de Paris se divise en 2 actes distincts, celui de midi et celui de 7h. Il y a dans l'apéritif du matin une fraîcheur, un coup de vitesse et une humeur pétillante qu'on ne retrouve jamais le soir. En revanche, il y a un sérieux, une puissance de pensée, une sagesse dans l'apéritif du soir qui n'existe pas le matin. L'avantage du soir, c'est aussi l'échappée qui s'ensuit vers la libre déambulation d'une octambule. L'écrivain Francis de Miomandre décrit ainsi une étape du passant considérable, des papiers sous le bras. Il se répand en paradoxes, en récits truculents, en invectives d'apocalypse. Il ruisselle comme d'une rosée de tout ce que Paris nocturne a déposé sur lui. D'angoisse et de mystère. À ceux qui veulent bien le suivre, c'est parti pour le canal Saint-Martin, les Halles ou la rue de Charonne. Paris offre aux générations qui se succèdent un même décor de vertiges et de sentiments enfouis. Il n'y a pas de pas perdu. Éric Hazan célébrera dans l'invention de Paris cette histoire populaire toujours recommencée où se percutent petits et grands métiers, fantômes nocturnes et matinaliers pressés, pénombre et clarté naissante. Léon-Paul Fargue est témoin et acteur des débuts de la radio. Il a été membre du jury d'un concours de théâtre radiophonique, invité pour une conversation par le studio d'essai de Pierre Schaeffer. Le voici dans une série sur les arrondissements de Paris, arrêté au 6e par sa mort en 1947 des suites d'un accident vasculaire cérébral, survenu en 1943 au cours d'un déjeuner rue des Grands Augustins avec Picasso et Catherine Dodley.
Mes souvenirs les plus récents sont là, à cette musique des pierres et des jeux de rue, à des vitrines, à ces brasseries où il semble que tout s'organise en vue de supprimer la détresse et de la remplacer par le goût de vivre, par la douceur de s'asseoir, à côté d'un artiste, d'un ami, d'un confrère. La rue Bonaparte, Adrien Monnier et ses livres, Gertrude Stein qui vécut ici, la rue du Dragon, mon vieil ami Thibaudet, le surréalisme d'avant la guerre, les bibliophiles, ses beautés, ses relations, sont pour moi du quartier une irremplaçable famille.
La dernière livraison, on était dans le sixième avec Léon-Paul Fargue. La dernière livraison de la revue Ludion, bulletin de la Société des lecteurs de Léon-Paul Fargue, est consacrée à son riche univers sonore, aux voix, aux ondes, qu'il désignait comme les écluses de la parole. Hostile au début de la TSF, elle éveille à peine les grands sourires du passé. J'aime mieux le piano qui fait sa vaisselle à l'étage du dessus et d'où tombent parfois des fables sur mon lit. Il va rapidement s'y prêter, s'y amuser comme le causeur impénitent qu'il est. Il écrit des fantaisies pour le micro, comme ces dîners de lune qui racontent l'histoire d'une jeune fille venue à Paris pour parfaire son éducation auprès de précepteurs comme Cocteau, Audiberti ou Gide, dont il remplacera en partie les voix. Marie Déa interprète le rôle, mais à quelques années près, ça aurait pu être Juliette Gréco. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec aujourd'hui un rapport sur les habitants du Donbass à l'est de l'Ukraine. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques. Oui, comment vivent aujourd'hui les civils de chaque côté de la ligne de front, ligne qui sépare de l'Ukraine les deux républiques de Donetsk et Louhansk. Cela fait 6 ans maintenant que des séparatistes ont proclamé la partition de ce petit morceau de territoire de l'est de l'Ukraine, après que les manifestations de Maïdan début 2014 provoquent des contre-manifestations, notamment dans le Donbass, et que ces contre-manifestations deviennent insurrections armées et conflits séparatistes soutenus par des groupes pro-russes. 6 ans plus tard, et malgré les discussions ponctuelles au format dit Normandie, réunissant l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne, le conflit est toujours vivace, en plein cœur de l'Europe. Bonjour Emmanuel Tron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur sur les conflits à Harvard et nous profitons de votre passage à Paris pour évoquer le tout récent rapport que vous avez fait paraître après un travail de terrain dans le Donbass, une géopolitique guerrière prenant en otage les civils. Les civils du Donbass, Emmanuel Tron, ce sont combien d'habitants aujourd'hui ?
C'est difficile de donner un nombre précis dans ce contexte de la région du Donbass, mais on peut évaluer, si on regarde les chiffres avant le début du conflit de 2014, on doit tourner autour de entre 2,5 millions et 3,5 millions de personnes, dont probablement dans les zones séparatistes, presque 1,8 million ou 2 millions résident aujourd'hui.
Sauf que beaucoup sont partis, on sait qui, on sait où.
Il y a forcément eu un exode, et principalement, je dirais, de la jeunesse, puisque l'accès à l'université, l'accès à l'emploi a été fortement dégradé tout au long de la première période du conflit entre 2014 et 2017. Il n'y a une fois encore pas de chiffres, mais il est évident que beaucoup de jeunes sont partis, soit ont rejoint l'Ukraine, ont rejoint des pays comme la Pologne, les pays baltes, et aussi une partie se sont orientés vers la Russie.
Alors qui sont ceux qui sont restés ?
Ce qui m'a frappé en allant en zone séparatiste, c'est que les personnes qui sont restées sont surtout des personnes âgées, des personnes vulnérables, des familles qui étaient ancrées dans cette région et qui n'ont pas forcément voulu partir. Il y a aussi, il faut bien comprendre que cette ligne de contact qui sépare le Donbass dans la partie contrôlée par les autorités de Kiev et l'autre partie, a un certain nombre de lignes de passage, de checkpoint où des gens circulent avec difficulté, mais il y a à la fois des jeunes qui vont voir leur famille d'un côté comme de l'autre, et il y a aussi les personnes âgées et retraités qui reçoivent leur pension et qui y vont. Donc il y a encore ces va-et-vient là, mais je dirais que ces populations sont avant tout très attachées à leur terre et donc souhaitent y rester.
Il y a aussi, on peut constater, vous l'écrivez dans votre rapport, un afflux de populations, de villes alentour ou de campagnes alentour qui a créé, écrivez-vous, un tissu social communautaire appauvri qui contribue aujourd'hui aux ressources financières du Donbass. Est-ce qu'il y a une aide directe russe et quelle forme prend-elle ?
Il y a une aide directe russe et les autorités à Moscou ne le nient pas. Imaginez un département français qui est sous une sorte d'embargo et qui n'a aucun moyen de se tourner vers l'extérieur. Ça nécessite un appui au quotidien pour faire fonctionner les infrastructures, les services publics et la vie de la cité. Donc, je sais que dans le rapport, nous mentionnons un chiffre qui nous avait été apporté par les autorités à Moscou. Autour d'1 milliard à peu près sera dépensé par an, un petit peu plus d'1 milliard pour faire vivre ces républiques. À côté de ça, le pays a très peu d'appui, hein, puisqu'il n'est reconnu que par l'Abkhazie jusqu'à présent et qu'il n'a pas d'échange économique officiel et que ces zones séparatistes ne sont pas reconnues ni par la communauté internationale ni par d'autres pays.
Ce sont deux républiques où l'on paye en roubles aujourd'hui, je crois, et la Russie a distribué des passeports aux citoyens de ces républiques. Ces territoires autoproclamés, donc qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale, vous venez de le dire, comment sont-ils administrés, par qui ?
Vous entrez dans des zones qui fonctionnent. Les services fonctionnent, les ministères sont ouverts, il y a des personnels, on paye en rouble. Mais je veux insister sur un point, c'est que quand vous discutez avec les populations qui vivent dans ces zones séparatistes, elles ne sont pas en tant que telles séparatistes ou elles n'ont pas un discours séparatiste aujourd'hui. Elles insistent surtout sur leur volonté de trouver une issue favorable en termes de paix et de processus de justice pour retrouver leur dignité. Donc l'administration existe, ça fonctionne. Ce pays a un couvre-feu hein, à partir de 10h du soir, ces enclaves, pardon. Mais sinon, il y a un opéra à Donetsk, il y a des restaurants, les gens sortent dans les cafés, il y a une vie quotidienne.
Pour autant, la guerre, vous le dites, n'est pas terminée. Emmanuel Tron, vous avez particulièrement travaillé dans ce qu'on appelle la zone de contact, celle qui sépare les territoires administrés par les républiques séparatistes et les territoires administrés par l'Ukraine. Elle fait cette zone de contact à peu près 400 kilomètres de long. Est-ce qu'il y a encore des combats aujourd'hui ? Ou est-ce que vous avez pu constater un semblant de désengagement militaire comme il était prévu, notamment par les accords de Minsk ?
Il y a une conduite des hostilités et donc ce que j'appellerais des opérations militaires, puisque les deux parties sont assez cantonnées sur leur ligne. Il peut y avoir des bombardements ou des tirs. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans cette partie de l'Ukraine, c'est un conflit à basse intensité en termes de victimes et de populations touchées par la conduite des hostilités. Il y a même, par exemple, un chiffre qui est intéressant à garder en tête, c'est l'année passée, il y a eu plus de victimes morts d'un arrêt cardiaque en traversant les lignes de passage pour régler tous les problèmes administratifs et un peu la stigmatisation et la discrimination qui est faite aux populations qui veulent aller vers l'Ukraine contrôlée par Kiev, que des gens directement victimes de bombardements. Mais il n'empêche pas que ce que vivent les populations au quotidien démontre que le conflit est toujours actif.
Les acteurs ont-ils intérêt à ce que ce conflit dure comme ça, en faible intensité ? Vous écrivez dans votre rapport, les populations se sont rendues compte que leur région était instrumentalisée, non pas au bénéfice d'une solution durable pour sortir de la crise, mais plutôt sacrifiée à des intérêts et joutes politiques nationales et internationales.
Aucun acteur politique dira officiellement qu'il a un intérêt à voir un conflit perdurer, mais on sait très bien, et ça c'est pas propre à la situation en Ukraine, que les motivations politiques pour prendre conscience du sort des populations civiles dans un conflit se heurtent bien évidemment à des rapports de force, des enjeux géopolitiques qui sont très complexes et qui laissent de côté des populations. Et aujourd'hui, on voit bien que cette résolution du conflit est assujettie aux relations entre le Kremlin et le président Poutine et la communauté internationale.
La population du Donbass, la population civile près de cette ligne de front, ce dont elle a besoin, vous me disiez tout à l'heure, ce n'est pas de nourriture ou de matériel, c'est tout simplement de justice. Emmanuel Tron, quelle présence humanitaire pour autant, c'est quand même le cœur de votre rapport aujourd'hui. Et pourquoi les ONG subissent-elles d'importantes pressions, un risque d'instrumentalisation ? Comment vous les avez pu le constater sur place ?
La présence humanitaire reste faible compte tenu de la situation des populations civiles. Si vous voulez, cette présence, elle est d'abord en zone contrôlée par l'Ukraine. Pas vraiment contrainte, mais si vous voulez, elle n'apporte pas de solution à long terme parce qu'elle ne s'inscrit pas dans des processus de développement. Elle est là pour répondre à des besoins ponctuels. Et puis, elle souhaite s'orienter vers les zones séparatistes où là, on sait que les populations ont peu accès à l'aide. Et Intervenir aujourd'hui en zone séparatiste est très difficile pour beaucoup d'organisations internationales parce que leurs bailleurs ou les politiques internationales ne souhaitent pas participer à la légitimation des autorités séparatistes et donc veulent limiter avant toute chose, et c'est aussi le souhait des autorités en Ukraine, l'assistance et les programmes humanitaires qui pourraient arriver sur place. J'ajoute quand même que, à côté de ça, les séparatistes ont quand même une ADN plutôt complotiste et paranoïaque par rapport à la présence internationale et demandent toujours un petit peu l'avis, avant tout du Kremlin, par rapport à ce que pourrait être une aide internationale. Et on sait très bien d'expérience qu'en Russie, les programmes humanitaires depuis très longtemps sont sujets à un certain nombre de contraintes administratives et opérationnelles.
Donc voilà pour le constat de votre rapport, Emmanuel Tron. Vous formulez aussi des recommandations pour conclure ?
Oui, les principales recommandations sont faites auprès des autorités à Kiev et des autorités séparatistes. Après, il y a un certain nombre de recommandations régionales, et là, c'est plus auprès de la Russie. Je pense qu'elle a un rôle clé dans cette situation et dans sa résolution, et participer, faciliter des processus de désarmement, participer à un certain nombre d'enquêtes indépendantes qui permettent de voir comment ces zones fonctionnent, c'est essentiel. Et auprès de la communauté internationale, ce qui nous paraît important, et il y a un certain nombre de dossiers qui sont très documentés aujourd'hui à la Cour européenne des droits de l'homme, et il faut que ces dossiers avancent, il faut qu'il y ait un traitement là-dessus.
Quel type de violation des droits de l'homme ?
Des violations, des exactions au cours du conflit, particulièrement entre 2014 et 2017, de la part des militaires séparatistes, mais aussi de la part des autorités ukrainiennes. Or, cette question-là n'a pas été vraiment traitée par les autorités à Kiev et donne le sentiment que d'un climat d'impunité. Et ensuite, il y a tout ce processus politique qui va être, selon moi, très très long à dénouer. Mais il faut avant tout faciliter des accords et la mise en application des accords, pas simplement sur les sujets non politiques qui sont relativement simples à mettre en place, libération des prisonniers, cesser le feu, mais aussi sur des aspects plus politiques pour voir ce qui peut être vraiment solide dans la durée et qui donne le sentiment aux populations vivant là-bas que leurs préoccupations sont prises en compte et vont être traitées très rapidement.
Merci Emmanuel Tron, chercheur sur les conflits à Harvard, pour le programme Initiative humanitaire au sein de l'Université d'Harvard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, très bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Avis personnel, expertise, coup de cœur ou flop, l'actualité artistique par Lucille Como.
La critique, c'est un temps donné tous les vendredis aux commentaires subjectifs et informés de l'actualité culturelle, avec des critiques de tous bords et de tous genres pour que vive ce goût partagé et contagieux de la dispute, qu'elle concerne des films, des livres, des expositions, des séries, des bandes dessinées, bref, tout ce qui sème et se discute.
La critique, le vendredi à midi sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente l'exposition Man Ray et la mode au musée du Luxembourg. Explorant pour la première fois l'œuvre de Man Ray à travers l'angle de la mode, l'exposition met en lumière ses travaux réalisés pour les plus grands couturiers et les plus grandes revues. Esthétique moderne, inventivité technique, liberté artistique, venez découvrir les tirages originaux et remarquables de celui qui a su lier l'art à la mode. Man Ray et la mode, jusqu'au 17 janvier au musée du Luxembourg à Paris. Un partenariat France Culture.
Dans un instant commencent les matins de France Culture avec vous Guillaume Erner et votre humeur du jour. Bonjour.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous. Jean Castex n'a donc pas téléchargé l'application Stop Covid. On l'a appris hier pendant l'émission politique, alors je laisserai le soin à mes camarades Stéphane Robert, Frédéric Saïs de tirer les enseignements politiques de cet aveu. Sur le plan sociétal en revanche, voilà qui signe une nouvelle fois l'échec des applications développées par l'État pour assurer la sécurité des citoyens. Stop Covid et SAIP, vous savez, SAIP, cette application qui était destinée à nous alerter en cas d'attentat, deux applications qui ont planté dramatiquement et qui ont d'ailleurs chacune eu droit à leur superfait, la retrouver évidemment sur France Culture, franceculture.fr. L'État ne sait pas développer une application, c'est un mauvais maître d'œuvre en la matière. Les solutions techniques adoptées sont toujours trop compliquées, les intervenants trop nombreux, le résultat est tellement peu convaincant que même le Premier ministre estime pouvoir se dispenser de de l'application. Dans le cas de SAIP, un simple envoi de SMS aurait pu alerter les personnes présentes sur le lieu d'un attentat, mais c'était probablement trop simple. Le gouvernement a donc préféré choisir une solution qui avait le mérite d'être plus sophistiquée, plus compliquée et in fine complètement inutilisable. Elle s'est mise à fonctionner en absence d'attentat et s'est tue alors qu'elle aurait dû fonctionner. Mais l'aveu de Jean Castex au sujet de Stop Covid signifie aussi autre chose. Bien sûr, il veut dire « ici le chef ne mange pas sa propre cuisine », ce qui n'est jamais bon signe en matière de cuisine. Mais il signifie aussi que la notion même de masse critique essentielle dans une épidémie n'a pas été comprise pour télécharger un procédé de traçage épidémique. Inutile de devoir prendre le métro, il suffit de croiser d'autres êtres humains et que l'on ne connaîtrait pas assez pour que ceux-ci vous préviennent en cas de contamination. C'est cela l'intérêt du tracker, et comme une équipe de chercheurs anglais menée par Isobel Braithwaite l'a démontré, une application du type Stop Covid ne peut fonctionner que si elle est téléchargée par plus de 95% de la population. En deçà, elle ne sert pas à grand-chose. La lutte contre une épidémie demande à tous d'être kantiens. Chacun doit agir comme il voudrait que les autres agissent, kantiens et non nietzschéens, agir en se pensant comme une exception. Et si l'on se trompe de philosophe ou de philosophie en matière de lutte contre l'épidémie, il y a fort à parier que le Covid ne trouvera jamais de conclusion.